serait intéressant. Maintenant, si vous ne souhaitez pas nous en parler, eh ben, c'est pas grave, on s'en passera, on a l'habitude.
Alors, plusieurs choses. Là, on est dans un débat d'orientation budgétaire. Donc, on annonce les chiffres sur lesquels on se positionne. Voilà. Donc, après, vous savez qu'il y aura bientôt le vote du budget principal, du compte administratif. Dans le cadre de ce budget principal, du budget primitif, pardon, comme on le fait tous les ans, il y a une liste assez détaillée des investissements. Aujourd'hui, ce sont des orientations budgétaires. Donc, les orientations budgétaires, un débat d'orientation budgétaire, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on discute sur les grandes orientations financières de la commune. Faut-il continuer à diminuer la dette ? Oui ? Non ? Êtes-vous pour ? Êtes-vous contre ? Faut-il ne pas augmenter les impôts ? Faut-il continuer à investir ? Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à la loi SRU ? C'est ça, le débat d'orientation budgétaire. Ce n'est pas des grandes orientations de la commune. Derrière, ça se décline au travers d'un budget primitif dans lequel on liste les projets, on détaille de façon un peu plus... financière et plus précise des investissements qu'on va faire en 2021. Peut-être qu'à la fin, ça ne sera peut-être pas 5 millions, ça sera peut-être 4 millions 7, 5 millions 2, on va voir. Bon, ça sera 5 millions, on va dire Jean-Michel Perratou. Donc voilà, après, ça vous intéresse, il peut vous donner déjà une première liste de, par rapport aux projets qui ont été cités, on peut vous donner les montants. Mais le mieux, je pense, c'est d'en parler à la prochaine commission finance et notamment d'attendre avec patience le budget primitif sans s'énerver. Et dans ce cadre du budget primitif, vous aurez une vision un peu plus détaillée du coup, de chaque projet sur lequel l'équipe municipale de la majorité travaille. Ça se passe comme ça dans toutes les communes du Var. Le Pradet ne va pas y faire exception. Après, en ce qui concerne, moi, je ne méprise personne. Je n'ai jamais méprisé qui que ce soit. Jamais, monsieur Riquelme. Ensuite, j'en prends à témoin l'opposition qui nous a demandé d'avoir un deuxième siège au CCS. On a été content de leur donner. De siéger au port, on a été content de les faire participer. On fait des commissions, on fait même plus de commissions que ce que prévoit la loi, de manière à pouvoir vous associer à chacune des décisions. Après, à chacun d'amener sa pierre à l'édifice ou pas. Donc chacun est bienvenu pour participer à la vie de la commune, dans la majorité avec qui j'ai beaucoup de fierté à aborder ce deuxième mandat, ou dans l'opposition avec laquelle j'ai beaucoup de plaisir à travailler à partir du moment où ils sont dans une logique constructive et ils veulent construire avec nous. Et je pense que dans l'opposition, il y a des gens qui sont dans une démarche positive, qui ont envie de faire des choses avec nous, et ils sont toujours bienvenus. Voilà. C'est toujours un plaisir de travailler bien sûr avec mon équipe en priorité, parce qu'on a quand même gagné, vous l'avez rappelé, on s'en souvient tous, on a gagné les élections. Donc bien sûr, on impulse, on donne une impulsion à la commune, on fait travailler les services, on travaille avec eux, on va embellir, continuer à embellir notre commune. La réussite du mandat, oui, c'est dans les urnes que ça se passe. Donc on a réussi notre premier mandat, les prédétants ont fait l'honneur de nous choisir pour un deuxième mandat. Mais écoutez, je pense que la moindre des choses pour notre équipe, c'est d'avancer. Bien sûr d'écouter l'opposition, mais c'est quand même d'avancer, parce qu'on ne va pas stopper dès qu'on nous dit que la colonne n'est pas bien placée ou qu'on n'a pas compris la différence entre un prévisionnel et puis le réalisé. Donc nous, on avance, on déroule, on a réussi à embellir la commune sur le premier mandat, on va encore l'embellir, on va renforcer l'attractivité sur le deuxième mandat. Ça passe par les finances, la finance c'est les nerfs de la guerre, et puis en période de Covid, je pense qu'on se serre tous les coudes, qu'on avance, qu'on envoie des ondes positives à l'ensemble de la population, et pas qu'on tombe dans le marasme et dans les gna. Qui veut prendre la parole ? Monsieur Riquelme.
Merci monsieur le maire. Bien volontiers d'être constructif avec vous monsieur le maire, mais alors une fois de plus, répondez à nos questions. Si la convention dont on a parlé de dernier conseil, je ne vous mettais pas en évidence ces erreurs, je ne savais pas que c'était des erreurs à un moment, j'ai juste posé une question, vous n'avez pas su y répondre, mais c'est de là où on a su que c'était une erreur. Ben, c'est constructif. Si je ne vous en parle pas, vous signez une convention avec des chiffres qui n'ont rien à voir avec la réalité. Vous imaginez ? Monsieur le maire, il signe quelque chose avec un opérateur privé, c'est du grand n'importe quoi. 3,8 millions d'euros alors que c'est 1,3. Ben, les gens, parlez avec un prédétant, vous lui dites, oh, moi 3,8 ou 1,3. C'est pareil, je vous assure qu'il sera faire la différence lui. Enfin moi je sais la faire. Et je sais très bien que vous aussi vous savez la faire. Donc voilà, soyez réaliste, correct. Moi je vous ai mis en évidence des choses, j'attends juste des explications derrière. Pourquoi on me les apporte pas? Et vous dites c'est pas du mépris. De la dernière fois, Madame Rialon a dit ah mais monsieur Riquelme il polémique. Je polémiquais pas, je voulais poser des questions sur des chiffres qui me paraissaient bizarres. Et la preuve, j'avais raison. Ils étaient complètement farfelus. C'est vous qui venez me l'écrire, hein, c'est pas moi. Eh ben voilà, dites-moi pourquoi. Expliquez-moi pourquoi c'est pas 3,8. Vous comprenez ? Et au moins, ça nourrit le débat. Ça nous permet de comprendre. Parce que sinon, ben, évidemment, je ne comprends pas. Et ça paraît flou, ça paraît opaque. Et peut-être que ça ne l'est pas. Eh ben alors, expliquez-vous, donnez-nous ces réponses.
Je crois qu'effectivement, c'est un peu confus dans votre tête. Valérie Rialan a déjà répondu à chacune de vos questions, on ne va pas y répondre 10 fois. On vous explique. Moi, ce que je vous propose, si vous n'avez pas compris la réponse de Mme Rialan, venez nous voir à la fin du conseil, on viendra vous expliquer à nouveau. Ce n'est pas comme si cette convention qui est passée avec un bailleur social ne passait pas par la préfecture pour la subvention, ne passait pas par le contrôle de légalité, ne passait pas par un bailleur social, ne passait pas par une commune. Enfin, Monsieur Riquelme, sérieusement, non mais sérieusement, je vous écoute depuis tout à l'heure. Cette convention, c'est comme si c'était fait sur le coin d'une table entre une commune et un promoteur. Il s'agit d'un conventionnement validé par la préfecture qui passe en contrôle de légalité et vous essayez de faire prendre des vessies pour des lanternes. Écoutez, franchement, c'est pas très sérieux. Et je suis moi aussi, vous disiez, que vous avez la satisfaction de pas continuer à travailler avec moi, monsieur Riquelme. Merci.
Oh, monsieur le maire, heureusement que vous ne l'avez pas envoyé au contrôle de légalité dans l'État. Hein. Heureusement que monsieur Riquelme, à la fois, il est intervenu. Hein. Ah non, ça vous paraît pas. Ah ben vous, les chiffres, effectivement, ça vous pose pas de problème. Donc on essaie d'être constructif, mais c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de mépris de votre part.
Beaucoup de mépris de votre part, vous venez de le dire, merci. Bon, je vous propose de prendre acte que le débat a eu lieu, et bien lieu. Voilà, il y a manqué des questions du côté de M. Pesery. Non, je pense que les questions ont été posées, questions essentielles. Bonjour, merci. Donc on prend acte que ce débat a été tenu, et ça se vote. Tout le monde reconnaît que le débat a bien eu lieu. Je vous remercie, unanimité. On va passer au point 2 à l'ordre du jour. Il s'agit de l'adhésion au service remplacement du centre de gestion 80 pour la mission intérim territoriale. Et c'est Madame Magali Vincent qui va s'en occuper.
Alors, bonjour à tous. Donc, il s'agit de l'adhésion au service remplacement du CDG 83 pour la mission intérim territoriale. Donc, l'idée est de pouvoir recourir en cas de besoin à des agents recrutés par le CDG 83. La ville du Pradé donc, souhaiterait l'utiliser pour bénéficier de compétences spécifiques en cas de besoin non pérenne. L'adhésion est gratuite, la commune rembourse les salaires et charges auxquels une majoration de 10% est appliquée pour les frais de gestion. Il n'est pas prévu de mettre en œuvre cette convention immédiatement, car nous n'avons plus de, enfin, nous n'avons pas de besoin, mais c'est un outil qui nous semble potentiellement intéressant à mobiliser si nécessaire. Donc, il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer la convention que vous avez pu lire.
Merci Magali. Avez-vous des questions sur cette délibération? Pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 3, Cécile Gomez. Ça concerne la création d'un poste de psychologue vacataire pour le service Petite Enfance.
Alors, bonjour à tous. Les agents de la crèche municipale, le jardin des Pitchouns, se trouvent parfois confrontés à des situations difficiles pendant leur pratique professionnelle. Ça peut être par exemple le comportement inhabituel d'un enfant, ça peut être la confrontation à l'accueil d'un enfant porteur de handicap, un conflit qui se déclenche avec une famille. Et donc afin de mener des actions et des réflexions pour améliorer l'accueil des enfants et des familles, il est proposé au conseil municipal de valider le recrutement d'un psychologue vacataire qui pourra accompagner les professionnels dans l'exercice de leur mission. Cela sera à raison d'une heure par semaine en moyenne et dans la limite de 48 heures par an. Merci.
Merci pour sa présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Brondino.
Bonjour à tous. Nous sommes pour cette création d'un poste de psychologue vacataire, puisque nous étions nous aussi pour accompagner les professionnels de la petite enfance. Cependant, lors de la dernière commission, il y a une information sur laquelle nous ne sommes pas attardés. Nous aurions une question qui nous semble intéressante, puisque cela répondrait certainement à des questions professionnelles et de famille. Comme vous le dites, il y a aujourd'hui des situations particulières qui demandent de l'aide, c'est vrai. Et on se questionnait sur l'utilisation de ces 48 heures par an, à savoir en fait une heure par semaine. De quelle manière exacte elle serait utilisée, s'il vous plaît?
Alors, comme je dis, c'est une heure par semaine en moyenne. Donc, évidemment, ce serait donc l'idée de faire appel à la là où le psychologue en question pour régler des problèmes ponctuellement. Donc, s'il y a besoin d'une séance ou d'une réunion de réflexion de 2 heures, 3 heures, tous les 15 jours. Donc, c'est à la demande, selon les situations rencontrées.
Merci.
Pas d'autres questions ? Monsieur Pézri.
Oui, juste un complément d'information. Quel est le volume de cas qui vous a amené à prendre cette décision ? Est-ce que c'est un cas tous les jours, un cas tous les 10 jours ? Enfin, je caricature volontairement. Mais qu'est-ce qui vous amène à prendre cette décision par rapport aux problématiques que vous avez rencontrées ?
Non, ce sont donc des constats de pratiques relevés ces derniers mois, où il y a eu notamment la confrontation à un enfant très difficile, à des comportements très inhabituels, que les professionnels, voilà, malgré tout le professionnalisme dont elles font preuve, ont eu du mal à gérer. Ça peut être un conflit avec une famille aussi, parce que là aussi, ça a apporté des difficultés donc, suite à la gestion de cet enfant, qui a dû être carrément évincé pendant quelques jours de la crèche, puisque la situation était difficile à gérer. L'accueil d'un enfant porteur de handicap également, qui a été difficile à gérer. Donc voilà, c'est quelques événements ces derniers mois qui ont amené à porter cette demande.
Pas d'autres questions ? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Unanimité. Je vous remercie. Question numéro 4, toujours Cécile Christelle Gomez. Il s'agit de la convention de forfait communal avec l'école privée Sainte-Bernadette.
Donc, comme vous le savez, selon la loi de août 2007, la commune doit verser à l'école privée sous contrat Sainte-Bernadette un forfait communal. Et jusqu'à juillet 2019, l'école était obligatoire à partir de 6 ans. Donc la commune versait un forfait communal pour chaque enfant d'élémentaire inscrit à Sainte-Bernadette et résidant sur la commune du Pradé. La loi de juillet 2019 a rendu l'école obligatoire à partir de 3 ans. La commune doit donc maintenant verser également le forfait communal à tous les enfants de la maternelle inscrits à Sainte-Bernadette et résidant au Pradé. La convention qui avait donc été signée en 2016 doit être revue dans ce sens. Il est proposé au conseil municipal donc d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention jointe donc qui tient compte de cette évolution réglementaire. Cette convention définit le montant versé pour les élèves demeurant au Pradé. Donc il s'agit de 530 euros par enfant et par an pour un enfant d'élémentaire et 650 euros par enfant et par an pour un enfant de maternelle. La différence de montant, donc le montant un petit peu plus élevé pour la maternelle, s'explique par le salaire des ATSEM, donc les agents territoriaux spécialisés dans les écoles maternelles qui aident les enseignants dans les classes. Cette convention réaffirme aussi le principe d'égalité de traitement entre l'école Sainte-Bernadette et les écoles publiques quant à l'accès aux services et aux équipements municipaux. Pour une précision et information, donc ça concerne cette année 2021 58 élèves en élémentaire et 38 élèves en maternelle.
Merci. Avez-vous des questions ? Monsieur Tandil. Monsieur Tandil, il faut le micro, sinon on ne vous enregistre pas.
Merci. Concernant, j'aurais 3 points, s'il vous plaît, monsieur le maire, et messieurs et mesdames les élus. J'aurais 3 points sur cette convention et sur l'éducation. Mes deux premières questions, interrogations, sachant qu'on en a parlé la semaine dernière en commission... j'aurais voulu savoir, sur le budget éducation, en 2020, la municipalité versait à la Caisse des écoles une subvention de fonctionnement de 65 000 euros. La cotisation des parents pour la Caisse des écoles était à hauteur de 1 000 euros. Selon le dernier rapport d'orientation budgétaire de septembre 2020, le nombre d'enfants recensés en 2020 est de 500 élèves en élémentaire et 300 élèves en maternelle, soit un total de 800 élèves, toujours en rapport par rapport au rôle. Dans le budget 2021, vous prévoyez une hausse de 19 élèves qui ressort d'un tableau en liaison avec l'éducation nationale et qui prend en compte les nouveaux arrivants sur la commune, les naissances et les programmes immobiliers, etc. Lors de la commission éducation, en visionnant rapidement le document fourni par Mme Gomez, je réitère ma question. Quelle est la raison pour laquelle le forfait communal du budget éducation est passé de 65 000 euros à 60 000 euros, tout en sachant qu'il y aura une augmentation d'effectifs en 2021? Ça, c'était ma première interrogation. Ma deuxième interrogation là, sur l'éducation, sur le budget, ça concerne l'UNICEF. Le Pradet est nommé ville amie des enfants. Panneau d'entrée de ville à l'appui, la cotisation annuelle est de 200 euros et prévue dans le budget 2021. Est-ce qu'une convention est signée ou renouvelée avec cet organisme? Voilà. Et pour terminer avec ce point 4, ça concerne la convention fixant le forfait communal de Sainte-Bernadette. Sainte-Bernadette a été créée donc hors contrat, cette convention, puis sous contrat simple jusqu'en 1996. Bon, je ne veux pas revenir sur les clauses. Depuis 2003, les classes de maternelle sont également sous contrat d'association. Le forfait communal de Sainte-Bernadette, pardon, dans l'objet de la convention, il est noté que celle-ci réaffirme l'égalité de traitement entre l'école privée Sainte-Bernadette et les écoles publiques de la commune quant à l'accès aux services et équipements communaux, sachant que la scolarité en école privée est payante. Mon interrogation, pour définir les sommes qui correspondent au financement des classes maternelles et élémentaires de l'école privée, y a-t-il un document ou une étude qui a été faite en amont permettant de quantifier, de justifier l'égalité de traitement avec les écoles publiques? Et pour terminer, sur la convention, l'article 2, le forfait communal repose sur la partie des dépenses de fonctionnement. Il serait peut-être souhaitable de joindre une annexe à cette convention qui définisse les prestations complémentaires proposées par la commune de la ville pour les dépenses obligatoires et les dépenses facultatives. Je vous remercie.
Alors, sur votre première question, je pense que vous avez mélangé en fait le budget caisse des écoles et le forfait communal, parce que ça n'a aucun lien. C'est-à-dire, quand on parlait du budget de 65 000 euros de la caisse des écoles qui a été intégrée au budget éducation, c'est le budget de la caisse des écoles. Donc, ça n'a rien à voir avec le forfait communal versé à Sainte-Bernadette. Pour ce qui concerne l'UNICEF, nous n'avons pas renouvelé la convention avec l'UNICEF cette année 2021. Mais cependant, nous maintenons toutes les actions que nous avons toujours menées avec les enfants. Alors finalement, l'UNICEF était pour le montage du dossier UNICEF, c'était un dossier extrêmement lourd, extrêmement chronophage, pour finalement très très peu d'actions au final. Donc nous faisons énormément de notre côté pour les enfants. Nous continuons à nous allons re-signer un PEDT dans lequel on va rassembler toutes les actions que nous faisons. Et c'est vrai qu'avec l'UNICEF, voilà, on en a discuté avec la personne qui s'occupe du secteur, et il n'était pas très judicieux de continuer cette convention avec eux. Elle en a convenu, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour les grandes villes qui ont tout un service qui s'occupe des relations avec l'UNICEF. Mais pour une petite ville comme le Pradet, c'est un petit peu compliqué et pas nécessaire. Pour ce qui est des dépenses, alors pour le calcul, pour le forfait communal de Sainte-Bernadette, alors effectivement, c'est un calcul très complexe que nous avons fait il y a quelques années lorsque nous avions eu le contrôle de la Chambre régionale des comptes. Alors, pour calculer les dépenses de fonctionnement liées aux écoles, effectivement, il s'agit de toutes les dépenses de fonctionnement pendant les heures de cours obligatoires. C'est-à-dire qu'on prend en compte les locaux, l'entretien, les fluides, les assurances, tout le personnel, que ce soit le personnel technique, les ATSEM, les interventions des services techniques, les espaces verts, etc. Tout ce qui est équipement, mobilier, fourniture scolaire. Donc c'est une énorme liste de dépenses. Et pour calculer donc le forfait qu'on donne à Sainte-Bernadette, on a également pris en compte tous les accès que l'on donne à l'école au même titre que les écoles publiques, c'est-à-dire l'accès aux équipements sportifs, à la bibliothèque, au spectacle de l'espace des arts, l'utilisation des bus, etc. Voilà, donc oui, effectivement, ça a été un calcul complexe que nous avons mené avec précision. Mais si vous voulez, on pourra vous donner des détails. Voilà, et je n'ai pas compris votre dernière question, en fait, sur les dépenses de fonctionnement.
Eh bien, je vous remercie de ces informations, mais c'est vrai que j'insiste un peu sur cette convention et je l'ai découverte le jour qu'on s'est réunis en commission, parce que quand on vient en réunion, c'est ce que je regrette beaucoup, c'est qu'on n'a que l'ordre du jour, donc c'est difficile de travailler en amont et de savoir ce qu'on doit, où on doit, qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Bon, peu importe. Cette convention, j'ai découverte le jour de cette commission. Et pour moi, elle n'était pas claire. Elle n'était pas claire parce que je ne savais pas à quoi l'attribuer. Ces dépenses de fonctionnement pour une école privée au sein du Pradel. Voilà. Donc ça manquait pour moi. Il manque des éléments en expliquant. Je sais que ça peut être. Il peut y avoir beaucoup de choses qui sont obligatoires et facultatives, mais je pense qu'il serait bon qu'il y ait une annexe qui reporte justement ces éléments. Et parce que je pense qu'à l'issue de la saison scolaire, c'est chiffré, j'en doute pas, hein, ça doit correspondre à toutes les dépenses qui ont été faites. Voilà. Par contre, j'ai un montant ici, je ne sais pas à quoi l'attribuer, on donne 1 500 € par classe pour un maximum de 2 classes concernant 2 écoles élémentaires dans le public. Alors, on est loin du compte par rapport à ce que vous donnez à Sainte-Bernadette pour les élémentaires et les maternelles. Voilà, c'est une réflexion. Hein.
D'accord. Non, mais enfin, bon, là, vous mélangez un petit peu tout, mais si vous voulez, on en reparlera à la prochaine commission éducation. Voilà. Donc, le forfait communal donné à Sainte-Bernadette, c'est un forfait global par enfant. Et ensuite, l'école en fait l'utilisation qu'elle souhaite, dans la limite de ce qui est réglementaire, pour son fonctionnement. Ensuite, ce que nous, on donne comme subvention pour les projets éducatifs aux écoles publiques, ça n'a rien à voir.
On sera amené, merci pour ces explications, on sera amené dans le cadre du budget ou lors d'une commission éducation reparler tous les détails. On s'écarte un petit peu de l'ordre du jour, il y a encore quelques points, notamment la restriction de Pagnol qui arrive. Donc ce que je propose, c'est de clôturer, je vais laisser la parole à M. Pézri qui l'a demandé, mais de clôturer sur cette délibération s'il n'y a pas d'autres questions à part celle de M. Pézri. Et c'est un sujet qu'on pourra évoquer avec vous lors d'une prochaine commission éducation ou lors du vote du budget pour vous éclaircir sur certains points qui pourraient vous paraître encore obscurs. Monsieur Pézri.
Oui, juste deux compléments. En parcourant certaines conventions qui sont passées avec d'autres structures privées un peu partout en France, j'ai vu que pour le moment, il était demandé aussi un budget prévisionnel pour l'année à venir. Et je pense que c'est intéressant, parce que ça fait un petit parallèle avec le tissu associatif. On demande toujours un budget prévisionnel pour un petit peu les engagements qui vont être faits. Donc je pense que ça pourrait être intéressant. Je rejoins M. Tandil en disant que ça serait bien, bon, Mme Gomez a expliqué les modalités de calcul, bon, ça reprend ce qui est dit dans la loi, mais ce qui serait bien, c'est d'avoir les chiffres en face, pour avoir vraiment une bonne lecture. Et troisièmement, je ne vois pas pourquoi vous vous rattachez au fait que l'école a été rendue obligatoire à partir de 3 ans, sachant que depuis 2012, le contrat d'association peut permettre de subventionner l'école maternelle au même titre que l'école élémentaire.
C'était juste pas obligatoire et maintenant c'est une obligation.
C'est vous qui l'avez rendu obligatoire.
Ah non, non, c'est la loi. Enfin, la convention, je crois qu'il y a une petite confusion, si je peux me permettre, je me trompe peut-être, mais je crois qu'il y a une petite confusion qui avait été relevée lors de la commission. C'est une convention au sens convention, mais qui est rendue obligatoire par la loi qui a été votée en
2007.
Mais 2010, voilà, et en 2019, je crois, je ne sais plus, en fait, depuis quelque temps, c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'on on est obligé, on n'a pas le choix.
J'aimerais bien voir ce texte, ça ne dérange pas.
Je pense que c'est dans les rappelés, là, je ne sais pas lequel c'est, il faudrait qu'on trouve. On vous envoie ça par email. Mais enfin, ce qu'il faut voir, c'est que cette convention, ce n'est pas une convention comme une convention associative. On reçoit une association, on les reçoit, on dit bon, ils ont besoin de quoi, c'est quoi le projet. Là, c'est une obligation légale. C'est une obligation légale. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de ne pas la donner. Non, mais... C'est-à-dire qu'on va au tribunal, juste pour que tout le monde comprenne, on va au tribunal demain, on perd. Donc on ne va pas aller au théâtre de toute façon, on s'entend bien avec l'école Sainte-Bernadette, c'est une des structures scolaires qui existent au Pradel, nous on vit avec, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que elle rend service en termes de prendre des temps et au-delà. Cette convention, ce n'est pas une convention qu'on a décidé de faire. C'est une convention qui est rendue obligatoire par la loi. Donc, la seule marge de manœuvre qu'on a, c'est l'application de la loi, comme ça a été longuement débattu. Il y a des critères. On prend les coûts de fonctionnement de l'école publique et on est obligé de verser une subvention qui correspond à ce que coûterait l'école privée. Donc, après, il y a une petite marge de. J'aime pas le mot de négociation, mais une petite marge d'appréciation sur le montant. Mais on ne va pas rentrer en détail. C'est par contre des détails qu'on peut livrer facilement en commission d'éducation la prochaine fois. Monsieur Pesgrassi, puis après on votera et on passera à la prochaine délibération.
Qu'il n'y ait pas de confusion dans mes propos, je n'ai pas dit que vous aviez créé une convention. C'est le contrat d'association avec l'école qui vous impose le financement, ça, je suis totalement d'accord. Par contre, les modalités de calcul avec les chiffres, plutôt qu'uniquement les items, sont importants. Et je vous dis, me trouver le texte qui vous dit que parce que la scolarisation est à 3 ans maintenant, c'est obligatoire, alors que pour moi, depuis 2012, vous auriez pu intégrer, dans le cadre du contrat d'association qui était signé avec l'école, un financement. Voilà, c'est la question que je posais. Je me trompe peut-être en étude, mais
La question, c'est est-ce qu'on aurait pu le faire avant, c'est ça?
Tout à fait.
Oui, on aurait pu, mais on l'a pas fait. Donc oui, on aurait pu le faire avant. On décide de le faire cette année. On en avait parlé, hein, c'est pas des discussions qu'on ça mérite, ça fait quelques années qu'ils nous demandent de. Puis à un moment on dit non, et puis après il y a des difficultés aussi pour tout le monde, ils ont des difficultés comme d'autres structures, renforcement des mesures de sécurité, ça arrive à un moment où ça devient difficile pour eux aussi de tenir. Je crois qu'on se doit d'aider le tissu associatif, les écoles, les gens qui en ont besoin, c'est aussi le rôle d'une mairie en temps difficile. Je crois qu'on est tout à fait d'accord sur le sujet d'ailleurs. Parfait, monsieur Riquelme, et après on passera au vote.
Merci, monsieur le maire. Oui, tout à fait d'accord pour accorder évidemment cette participation à Sainte-Bernadette. La loi, effectivement, est récente et j'ai lu également qu'il y avait la possibilité pour les communes d'avoir une compensation de l'État. Donc je voulais juste poser la question de savoir si c'était engagé pour notre commune.
Tout à fait.
Merci.
C'est l'État qui impose par la loi le versement de la subvention et qui accompagne les communes pendant 3 ans seulement, parce qu'ils sont obligés de le faire. À partir du moment où ils créent une obligation pour une commune, ils sont obligés de la financer pendant 3 ans. Enfin, dans 3 ans, on va tout faire tout seul, comme d'habitude. Hein. Donc là, ils nous aident 3 ans. Dans 3 ans, c'est full speed pour la mairie du Pradet. Bon, après, on est content d'aider la commune, hein. on n'est pas comme ça. On n'est pas. Mais c'est une obligation légale imposée par l'État, et donc l'État se doit d'accompagner la commune pendant 3 ans minimum. Et je crains qu'il ne le fasse que pendant 3 ans.
Oui, merci pour cette précision. Et d'autant plus, il faut bien indiquer que c'est uniquement, Madame Gomez nous l'a expliqué la semaine dernière, pour les pradétans qui sont inscrits à l'école Sainte-Bernadette et pas pour les enfants qui viennent d'autres communes, parce que Sainte-Bernadette, il y a beaucoup d'enfants qui sont scolarisés, mais qui ne sont pas forcément sur des administrés de la commune. Mais ce n'est pas un problème parce que ça ne rentre pas en compte.
Voilà, tout ça c'est régi par la loi. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je propose de passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Question numéro 5, toujours Cécile Christelle Gomez. Ça concerne le lancement du mandat de démolition et de reconstruction du groupe scolaire Marcel Pagnol et du concours de maîtrise d'œuvre afférent. Bon, je pense que la reconstruction de l'école Marcel Pagnol ne fait pas débat. Ça avait été annoncé dans le cadre des élections par à peu près toutes les listes en présence, en tout cas par la grande majorité d'entre eux. Voilà, c'est un projet sur lequel on a commencé à travailler il y a déjà une bonne année et demie, 2 ans. Et puis là, on arrive vraiment à la phase où on va faire. Voilà. Allez, Madame Christelle Gomez va nous parler de tout ça.
Donc, je vais un petit peu vous exposer le programme du projet. Donc, le projet du groupe scolaire Pagnol consiste à démolir l'intégralité des bâtiments et reconstruire l'école en lieu et place du site actuel. Donc, pour ce nouveau groupe scolaire, nous avons 3 grands objectifs. Nous souhaitons, premièrement, que le bâtiment soit adapté vraiment au plus près des besoins des futurs utilisateurs. Deuxième objectif, nous souhaitons que le bâtiment soit très performant sur le plan énergétique et peu coûteux en maintenance. Troisième objectif, nous souhaitons que le bâtiment s'intègre dans son environnement architectural et paysager. Pour rappel, le groupe scolaire Pagnol, aujourd'hui, c'est 5 classes de maternelle, 8 classes d'élémentaire, soit 330 élèves au total. sur les 750 inscrits au total dans les écoles publiques. Les bâtiments actuels sont implantés sur un grand terrain de 10 000 m². Donc, un de nos principaux objectifs, donc, c'est de répondre au mieux aux besoins des utilisateurs. Donc, la phase de concertation a donc été une étape essentielle pour l'élaboration de ce programme. Nous avons ainsi associé à cette étude les élus et la direction générale des services, les ATSEM, le personnel de restauration scolaire, les agents d'entretien et de garderie périscolaire, les services techniques, les services sport et jeunesse, la police municipale. Bien sûr, nous avons associé l'équipe pédagogique, donc avec les directrices et les enseignants de la maternelle, de l'élémentaire, la conseillère pédagogique de circonscription qui représentait donc monsieur l'inspecteur de circonscription, monsieur de l'éducation nationale, l'équipe d'animation de notre prestataire, la FOL, pour l'accueil périscolaire, les riverains et les parents d'élèves élus. Donc, suite à cette concertation qui a duré donc plusieurs semaines, plusieurs mois même, nous avons pu définir le concept de l'équipement et ses objectifs fonctionnels, ainsi que le tableau détaillé des surfaces que vous avez pu avoir en fin de document. Donc, le groupe scolaire sera organisé en quatre grandes fonctions. Les activités pédagogiques, bien sûr, donc nous allons construire au total 16 salles de classe. Donc nous avons besoin aujourd'hui de 13 salles de classe par rapport aux effectifs actuels. Donc nous prévoyons 3 salles de classe supplémentaires en fonction, on verra s'il y a des besoins en fonction de l'évolution des effectifs. Dans un premier temps, ces 3 salles pourront être utilisées comme par exemple bibliothèque, salle d'art plastique, salle de musique, selon les besoins des équipes pédagogiques. Il y a ensuite les fonctions communes, ce sont les activités d'éveil, avec les salles polyvalentes, salles de motricité, les bureaux de l'administration, du personnel, tout ce qui est logistique, entretien, la restauration, avec une grande salle à manger et une cuisine satellite, puisque la cuisine centrale restera à l'école Sandro, et les espaces extérieurs, avec des espaces de récréation, avec des jeux de cours, un terrain multisport et un jardin pédagogique. Donc chaque entité de cet équipement accueille des pratiques qui répondent à des exigences spécifiques des usagers. Et la bonne compréhension fonctionnelle, c'est-à-dire de comment fonctionnent les usagers, comment fonctionne l'école, sera un enjeu programmatique et architectural. C'est pour cela que nous allons continuer à associer les utilisateurs des locaux, donc essentiellement les personnels et les enseignants, et les services municipaux, dans l'étape suivante, qui sera le programme détaillé. Donc le projet devra prendre en compte les préoccupations des usagers, c'est-à-dire notamment l'articulation entre les différentes activités, les activités d'enseignement, d'éveil et de loisirs, la circulation entre les différentes fonctions, donc sans sortir du bâtiment, et le projet devra aussi apporter des réponses aux attentes des usagers en termes de confort thermique. Donc il y a beaucoup d'attentes en termes de confort thermique, acoustique et de qualité d'éclairage. Donc deuxième objectif, on souhaite avoir un bâtiment performant sur le plan énergétique. Donc nous souhaitons pour ce projet aller au-delà de la réglementation énergétique et adapter le projet aux enjeux du développement durable. Et nous souhaitons viser le label bâtiment durable méditerranéen argent. Donc c'est un label qui garantit un haut niveau de qualité énergétique et environnementale. Il permet de favoriser le bioclimatisme, minimiser l'impact des matériaux et réduire la consommation d'eau et d'énergie. Et enfin, nous avons donc troisième objectif, ce sont les objectifs architecturaux et urbains. Nous souhaitons construire un groupe scolaire de grande qualité paysagère et architecturale. Le projet devra proposer une architecture sobre, un environnement très végétalisé et une esthétique soucieuse de s'inscrire dans l'environnement et dans les traditions architecturales méditerranéennes. Au niveau du budget, donc le coût prévisionnel des travaux s'élève à 8 472 000 euros, j'arrondis au millier d'euros près. Et le coût total de l'opération, c'est-à-dire qui comprend la construction, la démolition, le désamiantage, toutes les études, la location des Algeco pour l'école provisoire, la rémunération des architectes et de l'AMO, de l'assistante maîtrise d'ouvrage, s'élèvera à 10 324 000 euros hors taxes.
Voilà. Bon, merci pour cette présentation détaillée. Alors, bien sûr, c'est un projet important pour la commune, bien sûr pour le bien-être des Pitchouns, pour leur niveau éducatif et aussi en termes financiers pour la commune. C'est un projet de 10 millions d'euros. Le projet Cœur de Ville, ça va être 6 millions d'euros de mémoire. Donc c'est un gros projet pour la commune, nécessaire. Ça a été dit, je pense qu'il était temps de reconstruire cette école. Je remercie bien sûr Cécile Christelle Gomez pour le travail qui a été effectué, mais pas seulement, parce que c'est vraiment un travail transversal au niveau de l'ensemble du conseil municipal. Beaucoup de services sont sollicités, les marchés, les travaux, l'urba, le tissu associatif, donc tout le monde a été sollicité, j'en oublie certainement, mais c'est vraiment un travail d'équipe qui se fait au sein de l'équipe de la majorité, et je vous remercie bien sûr pour tout le travail qui va être accompli, qui a été accompli et qui va être accompli sur ce sujet, bien sûr sur tous les autres, mais celui-là c'est un projet qui est extrêmement important pour l'avenir de la commune et de nos enfants. Ça renforce aussi l'attractivité. On a parlé d'attractivité tout à l'heure liée à l'embellissement de la commune, à l'opération façade, des écoles en bon état avec des enfants qui veulent s'épanouir, ça fait partie, ça renforce aussi l'attractivité de la commune, donc c'est un projet qui est vraiment important pour nous tous. Voilà. Est-ce qu'il y a, j'imagine qu'il y a des questions sur cette délibération, ou pas peut-être ? Pas de questions ? Allez, monsieur Riquel. Il était plus rapide, il a levé la main en premier.
Merci, monsieur le maire. Vraiment, je vous félicite à toute équipe pour l'ambition qui est portée sur ce projet, parce que c'est vrai qu'on souhaite depuis longtemps qu'il y ait un projet sur le groupe scolaire Pagnol, mais là Madame Gomez vient de nous exposer pas seulement un projet mais un projet ambitieux sur différents points de vue, donc personnellement je m'en réjouis et je vous soutiens pleinement dans cette démarche. Ce que je ne comprends pas, c'est autre chose, c'est le montage. Et c'est le sujet majeur de la délibération, hein, parce que je veux bien qu'on fasse bien la part des choses, qu'on ne dise pas Riquelme, il est contre le projet. Non, Riquelme, il est pour le projet. Après, des fois, on peut un petit peu utiliser les propos différemment. Donc, le mandat, hein, parce que la délibération... Alors, je viens de remarquer qu'il y avait une erreur. C'est marqué « afin de désigner un mandataire de la maîtrise d'œuvre ». C'est pas ça. C'est « afin de désigner un mandataire du maître d'ouvrage ». Donc là, il faudra regarder la délibération. Il y a une erreur. Donc le mandataire de la maîtrise d'ouvrage, là, je ne comprends pas, parce que nous avons à nos côtés la SAGEP qui est... dont nous sommes adhérents et dont c'est le métier. C'est pour ça qu'on a adhéré à la SAGEP. Du coup, je ne comprends pas pourquoi on passe un marché public qui demande toute une organisation administrative qui a bien entendu un coût de fonctionnement, mais aussi un coût ensuite pour l'attribution, alors que nous sommes outillés. Mais il y a certainement une raison. Je pose la question. Et deuxièmement, nous avons aussi des compétences en interne, si on ne veut pas faire appel à la SAGEP pour certaines raisons, je ne sais pas, et d'autant plus que j'ai vu dans la prochaine délibération, mais peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, que nous recrutons un nouvel ingénieur dans ce domaine précisément, dont c'est la compétence. Donc, à ce titre-là, je m'interroge sur ce montage.
Merci. Monsieur Pézeri, vous avez une question aussi ?
Oui, moi j'aurais voulu vous poser trois questions. Dans la délibération, vous faites état du jury de concours. Donc j'aurais aimé avoir des précisions quant à la méthode que vous allez mettre en place par rapport à ce jury. Est-ce que c'est le pendant de ce qui est fait en commission d'appel d'offres ? Tout le travail est fait en amont et nous avons uniquement la consultation in fine ? Ou alors est-ce que nous allons participer à différentes étapes ? Deuxièmement, je rejoins le côté projet avec de l'ambition, ça c'est intéressant. J'ai du mal à percevoir s'il y a modification ou pas dans le mode de fonctionnement, dans l'inclusion vis-à-vis du quartier. J'ai l'impression que Marie Moron a toujours utilisé de la même façon. Il n'y a pas de création de place de stationnement supplémentaire. Voilà, ça serait des éclaircissements dont j'aurais besoin. Et troisièmement, vous avez dit que vous laisseriez des salles vides qui pourraient être utilisées pour d'autres activités, donc 3 places si j'ai bien compris. Sauf erreur de ma part, au niveau des IME, il y a des volontés, des vérités ou des obligations d'avoir des classes inclusives dans les écoles primaires ou maternelles. Quelle va être la part pour ces classes, les UME, les UEEA, excusez-moi l'expression, les UEA, les UEM, les UEM. On va voir un petit peu s'il est prévu, pour faire le pendant avec la CLIS 4 qui est sur Sandro, d'avoir un regard sur le handicap, sur l'accompagnement de l'autre, dans des classes spécifiques dans cette école. Merci.
Oui, alors, donc concernant les classes, alors je réponds à M. Pesry, après je réponds à M. Riquelme. Donc effectivement, au niveau de l'inclusion, donc la classe CLIS, donc ULIS, restera à l'école Sandro. Mais bien sûr que nous avons déjà en place l'inclusion des enfants porteurs de handicap ou des enfants en difficulté, puisque nous accueillons, donc nous avons un partenariat avec le CDE, nous accueillons les enfants du CDE, nous accueillons certains enfants de Préma également, l'ULIS à l'école Sandro. Donc bien évidemment, nous allons continuer à inclure les enfants. Alors c'est vrai qu'avec l'IME, nous sommes en discussion. Il y avait des volontés de faire des partenariats, mais plutôt peut-être sur un temps hors classe ou sur des temps ponctuels plutôt que sur des classes à l'année. Voilà. Oui, donc pour terminer ma présentation, c'est vrai que pour accompagner les services dans la réalisation de ce projet, donc comme vous l'avez dit, c'est un projet ambitieux et un projet d'envergure. Nous à la taille, donc nous avons des services très performants au niveau des marchés et des services techniques, mais pas dimensionnés pour suivre un tel budget. Donc nous souhaitons faire appel à un mandataire donc chargé de nous accompagner, et la procédure de passation sera donc un appel d'offres ouvert pour trouver donc une aide pour nous accompagner. Donc ça peut effectivement être, ça pourrait être la SAGEF, ça pourrait être une AMO, on est en train d'y réfléchir, donc on se donne cette possibilité. Donc pour la suite, nous allons désigner donc un maître d'œuvre chargé de la conception du projet, c'est-à-dire un architecte, donc chargé de la conception du projet, du suivi des tableaux, des travaux. Donc la procédure pour cette désignation, ce sera un concours de maîtrise d'œuvre sur esquisse. Et pour cela, comme vous le disiez, M. Pesry, un jury de concours sera mis en place, donc avec les membres titulaires de la CAO, plus des membres experts, donc qui seront deux membres, donc deux architectes, très certainement l'architecte du CAUE et un autre architecte expert, et ensuite 5 membres du jury à voix consultative, qui seront donc désignés ultérieurement par arrêté municipal et qui devraient être donc le directeur et directrice d'école des deux écoles, l'inspecteur de l'éducation nationale et deux parents élus aussi de l'élémentaire, de la maternelle Pagnole, donc pour participer à ce jury de concours. Alors effectivement, au niveau du déroulement du concours, donc dans un premier temps, nous allons sélectionner des concurrents, donc sur la base de critères définis dans le règlement de concours. Et nous allons, le nombre de candidats qui vont être invités à remettre une offre est fixé à 3 minimum et 4 maximum. Dans un deuxième temps, le jury examinera les projets et les plans qui seront présentés de manière anonyme. Et ensuite, à l'issue de l'avis du jury, l'anonymat sera levé et le dialogue entre les membres du jury et les candidats pourront débuter. Donc effectivement, pendant toute la phase de concertation sur le cahier des charges, nous allons plutôt concerter avec les usagers de l'école, et ensuite sur les projets, donc une fois qu'il y aura la présentation des projets, nous allons associer donc tout le jury du concours avec les membres experts et les membres à voix consultative.
Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, monsieur Riquelme?
Merci, monsieur le maire. Du coup, merci pour votre réponse. On a du mal à se voir, on est juste entre les caméras. Moi, je m'interroge toujours sur la question de notre SPL. Monsieur le maire, est-ce que vous avez décidé, parce que vous êtes administrateur qui nous représente au sein de la SPL, c'est le métier de la SPL, on a fait des opérations, différentes opérations avec cette société dans ce même ordre d'idées, donc on sait très bien comment ça fonctionne. Vous avez décidé en fait de vous retirer de la SPL, pour bien comprendre, parce que sinon ça n'a aucun sens. Donc est-ce que vous avez décidé de stopper notre participation avec cette SPL et donc de partir sur un autre principe, et c'est quand même important politiquement de le savoir, ou il y a quelque chose qui m'échappe, ou on a l'intention de le confier à quelqu'un d'autre, et cette intention, je ne la comprends pas.
Il n'y a pas de politique, là, il n'y a que l'efficacité. Donc l'idée, ben, j'en ai parlé bien sûr avec la SPL dont je suis administrateur, l'idée c'est aussi que la SPL puisse concourir, hein, c'est ouvert à tout le monde, donc cette SPL-là ou d'autres peuvent concourir. On verra, c'est un projet très important pour nous. On va être sûr de choisir le meilleur projet avec les meilleurs prestataires. Je pense que la SAGEP, puisqu'il est question d'eux, peut largement faire partie des bons prestataires. Après, on se laisse la possibilité aussi d'en avoir d'autres qui ont peut-être aussi beaucoup d'expérience dans les écoles. La SAGEP, comme d'autres aussi, ils sont pris par des plannings, par des réalisations, pas toujours disponibles. On veut s'assurer au niveau de la commune d'un certain nombre de garanties en termes de réalisation, de coûts, de timing. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'offre toutes les possibilités pour mener ce projet dans les meilleures conditions possibles. C'est d'ailleurs pour ça que dans la prochaine délibération, on s'adjoint les services d'une personne pour nous aider à porter ce projet dans les meilleures conditions possibles. On a déjà des services, ça a été rappelé tout à l'heure, des services qui sont extrêmement compétents. Je les redis, c'est un sujet transversal. C'est une décision qui a été prise, pas simplement par le maire dans son bureau, c'est pas comme ça qu'on travaille quand on travaille sérieusement. C'est une décision qui a été prise par l'ensemble des élus ici présents. On travaillait aussi avec Isabelle Roger au niveau du marché public pour voir quelle pourrait être la meilleure formule, avec Direction Générale pour voir quelle pouvait être la meilleure formule. On a pensé, on a trouvé que ça va être la meilleure formule à ce jour. Après, ça ne nous empêche pas de passer un mandat avec la SAGEP dans un mois, deux mois, trois mois, quatre mois. Voilà, je crois qu'on se laisse toutes les portes. L'idée, c'est l'idée avec laquelle on a abordé ce projet, c'est de laisser toutes les portes ouvertes. On veut juste offrir le meilleur aux enfants. Voilà, nous, on veut offrir le meilleur aux enfants. On veut être sûr que le projet se passe dans les meilleures conditions possibles. Donc, on fait un peu fi des accointances à droite, à gauche. On veut juste offrir le meilleur projet pour les enfants. Et on a déterminé, l'équipe de la majorité a déterminé que c'était la meilleure méthode. Après, on a de très bonnes relations avec la SAGEP. On a conduit des beaux projets avec eux. On a réalisé un beau pôle culturel, n'est-ce pas, mon cher Christian ? Voilà, on a réalisé le CTM, on a réalisé un certain nombre de projets avec eux. Ça s'est extrêmement bien passé. On a travaillé aussi avec la cousine de la SAGEP, qui est la SAGEM, sur le projet qui est très bien réalisé sur l'avenue de l'EAP. Nous, on a des problèmes pour travailler avec personne. Hein. Donc, on sera peut-être amené à travailler avec la SAGEP, pourquoi pas ? Mais aujourd'hui, l'option qu'on a choisie, c'est l'ouverture, la transparence. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'a pas avec la SAGEP, c'est quand même on ouvre les portes vers d'autres personnes, qu'on fait d'autres écoles, peut-être avec d'autres idées. Je crois qu'il faut, quand on s'engage dans un projet comme ça, qui parle de l'avenir de nos enfants, je crois qu'il ne faut se fermer aucune porte. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Alors, abstention ici, hein. Abstention de M. Riquel sur le projet, sur le projet de lancement de mandat de démolition.
On est d'accord.
Oui, ouais, c'est ça, oui. Ouais. Donc, du projet tel qu'il est présenté, en tout cas. Voilà. Et donc, le reste, donc, alors on refait. Donc, qui est contre ? Parce que qui s'abstient ? Qui est pour ? Je vous remercie. Question numéro 6. Il s'agit de la convention de mise à disposition de personnel entre la ville et la métropole TPM. Donc là, on a Magali Vincent qui va nous en parler.
Alors, concernant la convention de mise à disposition de personnel entre la ville du Pradet et TPM. Donc, comme on l'a déjà évoqué, la commune du Pradet a de nombreux projets complexes portant sur des bâtiments communaux. Pour lesquels un renfort de personnel est nécessaire, donc tel que la reconstruction du groupe scolaire Marcel Pagnol, rénovation de la résidence autonomie et de maintenance sur des bâtiments communaux nécessitant la mise en place d'un pilotage de coordination. Donc dans ce cadre, le recours à un ingénieur expérimenté dans la conduite de ce type de projet est nécessaire. Le choix de la commune se porte sur une mise à disposition d'un agent de la métropole de TPM, plus souple qu'un recrutement direct, dans la mesure où l'agent retourne dans sa collectivité d'origine à la fin de la mission. La commune rembourse les salaires et charges de l'année N en début d'année N plus 1. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer la convention de mise à disposition d'un agent de catégorie A de la filière technique, telle que présentée en annexe.
Merci Magali. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération ? Non, pas de questions. Donc je vous propose de passer au vote. Il y a une question ?
Oui, monsieur le maire. Concernant cette convention de mise à disposition, donc effectivement, vous nous avez expliqué qu'on avait ce projet et que ça justifiait un renforcement des équipes techniques. Donc ça, pourquoi pas. Sauf que nous savons que nous avons au service technique des gens de qualité qui ne demandent qu'une chose, c'est évoluer. On a créé il y a quelques années un poste de technicien pour renforcer déjà les services techniques. C'est assez récent. L'actuel responsable des bâtiments, je pense que c'est un excellent agent. Tous les adjoints ici présents, je pense, pourraient en parler. Donc voilà, je ne comprends pas bien quelle est la démarche, parce que ça voudrait dire que... Alors, à moins qu'il y ait peut-être... qu'il est parti, qu'il a quitté la collectivité, mais j'aimerais que vous puissiez nous éclairer. Et finalement, c'est un peu un recrutement déguisé, quoi, parce qu'il va bien falloir le payer, ce cadre. Donc, pourquoi ne pas tout simplement, comme vous aimez bien les formules d'appel d'offres ouvert, pour qu'il n'y ait pas des petits arrangements, je n'ai pas trop bien compris tout à l'heure. Faites un appel à candidature et puis à ce moment-là, peut-être qu'il y aura d'autres personnes qui pourraient postuler. Alors après, cet agent, il est peut-être très bien, hein, il a sûrement de grandes compétences et il peut remplir la mission, c'est pas la question. La question, c'est d'une part, est-ce qu'il y a eu une concertation et est-ce qu'il y a eu, parce que j'ai pas vu dans la délibération, de référence à une commission paritaire, à une commission du personnel, à une quelconque concertation que ce soit. Donc, comme vous nous dites que c'est fait en toute transparence, j'aimerais savoir à quel niveau, parce que moi, je découvre cette nouvelle organisation. C'est quand même important, hein, ce qui va se passer là pour les services des bâtiments et pour les personnes concernées. Et je voulais vraiment savoir qu'est-ce qui se passait pour l'agent de la collectivité qui occupe actuellement ses fonctions. Et enfin, pour terminer, et j'en arrêterai là, un agent de catégorie A pour renforcer le pôle bâtiment en plus des personnes que nous avons aujourd'hui, alors que nous transférons le mandat. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, comme l'a expliqué tout à l'heure Mme Gomez, on pense qu'on n'a pas véritablement, qu'on n'est pas structuré, qu'on n'est pas organisé, du coup, ben on transfère cette charge de travail, hein, pas financière, parce qu'on continue à payer à quelqu'un d'autre. Mais on recrute quelqu'un pour ça. Là, moi, j'y perds un peu mon latin. Parce que soit on fait un mandat, et auquel cas, ben, c'est pour alléger la commune. Si on fait un mandat avec le coût, parce qu'un mandat, ça a un coût. Hein. Et qu'on nous dit, d'un autre côté, on prend un ingénieur, et ça aussi, ça a un coût. Et vous nous dites tout à l'heure, les dépenses du personnel sont parfaitement maîtrisées. On sait ce que c'est qu'un coût d'un ingénieur dans une petite commune comme la nôtre. On n'en a pas pléthore. Et généralement, enfin, on espère faire évoluer les agents de la collectivité. J'ai souvenir que nous avons fait évoluer en son temps un technicien au poste de directeur service technique et moi personnellement il m'avait donné grande satisfaction. J'espère que c'est encore le cas, je le pense. Donc on a en interne des gens de qualité. Donc voilà, c'est vraiment un sujet important, je voulais quand même y arrêter un instant.
Pas d'autres questions ? Non. Non, ben, je crois que vous mettez le doigt sur un sujet qui est extrêmement important. C'est, j'aime pas le terme de gestion dans ce domaine, mais je vais quand même l'utiliser, parce que c'est ce qu'utilisait couramment, la gestion des ressources humaines. Le cœur de notre activité, c'est de faire travailler des femmes et des hommes au service de la collectivité. Donc ça passe par le bien-être au travail. Il y a des jours qui sont un petit peu plus durs que d'autres, mais globalement, c'est important que les gens se sentent bien. C'est pour ça qu'on a mis en place des tickets restaurants, c'est pour ça qu'on a mis en place le RIFSEP. C'est pour ça que, tout en maîtrisant les dépenses de personnel, comme vous l'avez pu le constater dans l'Europe et comme vous le constatez dans le compte administratif et dans le budget primitif. On a ce souci de maîtrise financière de la dépense publique, de maîtrise du poste 012, mais en même temps, comme dirait quelqu'un de bien connu, on a aussi le souci du bien-être au travail, parce que le bien-être au travail, c'est du service de qualité rendu à la collectivité. C'est dans cet esprit-là qu'on a travaillé sur le premier mandat, c'est dans cet esprit-là qu'on continue à travailler dans le deuxième mandat. Alors là, il s'agit de quoi ? Il s'agit d'un accroissement caractérisé de travail. On avait fait un premier mandat qui était pas mal axé sur les voiries. On a fait un travail sur les voiries qui est assez considérable. Pangal, Berlioz, le Léap, la Bayette. On a travaillé avec le département, on a travaillé avec la métropole. Si on ne les avait pas eu pour nous aider, je ne sais pas si on aurait fait autant de choses. Là, on a été pas mal consolidés par ces différentes collectivités que je remercie encore aujourd'hui. Ben là, on travaille sur le patrimoine communal. Donc, on va quand même être aidé par nos partenaires, mais enfin, on va être surtout aidé financièrement, un peu moins en termes d'ingénierie. Donc, nous avons estimé, avec la direction générale, avec la direction des services techniques et avec l'ensemble des élus, qu'on avait un besoin de renforcement sur ce mandat, sur ce métier, sur cette expertise particulière. Donc, on a recherché des profils qui pourraient être disponibles, qu'on connaissait de manière à ne pas prendre de risque sur une embauche. Compliqué quand on embauche la fonction publique, parce que quand ça se passe bien, ça se passe plus mal, c'est plus compliqué. Là, on a des projets qui sont assez importants sur le mandat. On a parlé de l'école Marcel Pagnol, on a le pensionnat, on a aussi des parcelles qui sont des parcelles communales sur lesquelles on va travailler, puis on a travaillé des projets d'aménagement urbain, donc on a besoin de se renforcer. On a des personnes de qualité partout à la mairie. On a des gens à l'aménagement du territoire de grande qualité, on a des gens au service technique de grande qualité. On a une équipe municipale de grande qualité, on a une opposition que je respecte énormément, mais bon, il faut aussi savoir que quand on a besoin de renforcer les services, il faut aussi avoir la lucidité de le dire, qu'à un moment on a un mandat qui se présente devant nous. On a beaucoup d'ambition, vous l'avez dit vous-même, beaucoup d'ambition sur Marcel Pagnol, beaucoup d'ambition sur d'autres nombreux projets, donc on a un accroissement d'activité ponctuelle. Donc on a pensé que la meilleure solution, c'était une mise à disposition. On aurait pu aussi embaucher, c'est pas le bon terme, mais transférer ou faire muter cet agent pour le prendre sur le 012. Pour parler de transparence, on ferait une embauche, on n'en parlerait même pas de ça, parce que ça serait dans le tableau des effectifs, ça passerait inaperçu. Bon, écoutez, nous, ça nous semble normal, on passe une délibération, on ne fait pas une mise à disposition pour passer une délibération, enfin, il n'y a pas plus transparent que ça. On embauche quelqu'un pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, pour un accroissement d'activité. Bien sûr qu'on a travaillé avec ça, avec l'ensemble des gens qui sont concernés par ce projet. Bien sûr qu'on a parlé avec le directeur service technique, bien sûr qu'on a parlé avec la direction générale, bien sûr qu'on connaît la personne, et bien sûr que ça nous permettra de réussir ce mandat comme on a réussi le premier mandat. Voilà les raisons pour lesquelles on a décidé de passer par ce procédé. Monsieur Riquem, allez-y.
Merci, monsieur le maire. Vous n'avez pas répondu à ma question. Vous nous avez emmené un détour par le littoral et tout, on a fait tout le tour là, on est revenu, on s'est aéré, vous n'avez pas répondu à ma question. Il y avait deux questions, elles sont simples, hein. C'est un mandat à une structure qui va piloter nos opérations, donc on n'a pas besoin de renforcer, vous n'en parlez pas. Alors oui, vous avez raison, quand on a fait des voiries, on a fait appel à nos partenaires, mais on n'a pas renforcé, hein. On n'a pas embauché, hein. Il n'y a pas eu d'ingénieurs supplémentaires à la voirie. Là, oui, on a maîtrisé nos dépenses de personnel. Effectivement. Dans ce cas de figure, ce n'est pas du tout le cas. Donc ne faites pas de parallèle parce que vous renforcez mon argumentaire. Donc là, on a des bâtiments, on doit les entretenir. Bon, on sait faire, on le fait depuis des décennies, il n'y a pas de nouveauté. On renforce nos équipes par le biais d'un mandat avec une structure qui va nous coûter de l'argent. Bon, ça aurait pu être notre SPL, ça serait apparemment quelqu'un d'autre, on verra bien. On aura le temps d'en reparler. Mais quoi qu'il en soit, vous ne répondez pas à ma question. Deuxièmement, quel devenir pour la personne qui aujourd'hui est le responsable du bâtiment ? Vous n'avez pas répondu, là non plus, à cette question toute simple.
Alors, monsieur Riquem, il y a deux solutions. Soit vous avez la mémoire très courte, soit vous n'avez pas bien suivi la saison 1. Parce que dans la saison, on a renforcé les effectifs par quelqu'un pour la voirie. Donc vous avez vraiment la mémoire courte.
Pas
deuxièmement, monsieur Riquem, on vous explique les règles du jeu. Vous parlez, on laisse les gens s'exprimer. Vous aussi, vous laissez les personnes s'exprimer. C'est une question de courtoisie, on va dire ça poliment, courtoisie. Donc, je répète, soit vous avez la mémoire courte, soit vous n'avez pas bien suivi la saison 1. Saison 1, on a renforcé justement la structure voirie avec une personne qui a donné pleine satisfaction. Ça s'est très bien passé. Voilà. On fait la même chose sur saison 2. On envoie beaucoup de projets sur les bâtiments. Bah, on embauche quelqu'un aussi pour renforcer la structure sur ce patrimoine, pour embellir la commune. On a beaucoup de sujets. On a le foyer logement. On a fait beaucoup d'acquisitions de foncier sur le premier mandat pour faire un deuxième mandat axé sur le patrimoine. On est dedans. Ça vous va pas, ça vous va bien. C'est ce qu'on a essayé de faire. Après, on peut travailler ensemble, on peut discuter. Voilà. Je pense que notre vision, nous, de l'efficacité du service public, de l'efficacité de la fonction publique, c'est de renforcer les effectifs par un accroissement, comme c'est le cas. On a besoin, sur ce mandat, de renforcer nos effectifs par une personne spécialisée dans le patrimoine. C'est ce qu'on fait. Question numéro 2. C'était sur l'avenir de l'agent. Alors, vous le savez certainement, on n'a pas le droit d'évoquer les situations personnelles au sein d'un conseil municipal. On se voit à la fin du conseil, un autre jour, on vous explique.